Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Vivante Église pour un numéro qui va être consacré au prix décerné en 2026 par la chaire Jean Rodin de l'Institut catholique de Toulouse. Il récompense un étudiant ou une étudiante engagée dans un projet de solidarité ayant un objectif social. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Aude Bernard, docteur en droit et maître de conférence à la Faculté libre de droit de l'ICT, titulaire de la chaire Jean Rodin, et Apolline Maestre-Planck, lauréate du prix 2026. Bienvenue à toutes les deux. Merci d'avoir répondu l'une et l'autre à mon invitation. Le prix 2026 de la chaire Jean Rodin a donc été remis cette année à Apolline Maestre-Planck, qui s'y présente. Vous êtes fondatrice et présidente de l'association Essomé, qui œuvre au Togo en appui d'une structure d'accueil pour enfants. Vous allez nous expliquer de quoi il retourne précisément plus tard dans cette émission. Avant cela, pour ceux de nos auditeurs qui ne connaissent pas la chaire Jean Rodin, je voudrais qu'Aude Bernard rappelle ce que sont la vocation et les activités de cette institution. Ça va nous permettre aussi de comprendre la raison d'être de ce prix.
Bonjour Eric, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette émission Vivante Église. Alors la chaire Jean Rodin de Toulouse est une des cinq chaires éponymes qui a été créée par la Fondation Jean Rodin. Jean Rodin, c'est le fondateur du Secours catholique et c'est un homme qui mettait la charité au cœur même de toutes ses actions de terrain. Et c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur au sein de la chaire toulousaine, de toujours garder en tête, comme boussole, la question de la charité avec une approche de terrain. Donc depuis de nombreuses années, nous travaillons plus précisément sur les innovations sociales et dans quelle mesure ces innovations sociales, quelles qu'elles soient, peuvent contribuer à réduire ou à diminuer les effets négatifs de certaines vulnérabilités. Comment on peut combattre les vulnérabilités? Et nous travaillons en partenariat avec des associations locales, avec des universités du public comme catholiques, avec également d'autres partenaires divers et variés, sur des sujets assez vastes, puisque nous sommes une chaire hétéroclite, où nous avons des membres dont les compétences vont du droit, puisque vous le rappeliez tout à l'heure, du droit à l'économie, la gestion, la théologie morale, l'éthique. Qui est-ce que nous avons d'autres? Des ingénieurs, des artistes. Donc tout ce monde un petit peu hétéroclite permet de rendre les activités de la chaire très riches et avec une réalité concrète sur le terrain.
Oui, alors vous prononcez l'adjectif. Concrète, parce que c'est à la fois un lieu de réflexion, la chaire Jean Rodin, mais c'est aussi un lieu d'action.
Tout à fait, c'est un lieu d'action et d'ailleurs, nombre de nos recherches ne sont pas qu'académiques, ce sont également des recherches-actions. J'en veux pour preuve une recherche-action qui a duré de 2022 à 2026 sur la gouvernance des organisations catholiques d'enseignement, qui fut un projet de recherche pour lequel nous avons obtenu un financement européen et nous avons travaillé de concert avec 6 autres pays européens sur cette question de l'IA dans l'éducation et de ce que l'Église catholique peut, ou du moins les universités catholiques peuvent apporter dans la transition vers l'IA en matière de pédagogie. Nous démarrons là aujourd'hui, cette année, 2 autres recherches-actions, l'une plus ouverte justement sur l'IA et la doctrine sociale de l'Église, qui va nous prendre les 3 prochaines années, et un autre projet consacré à la parole des plus pauvres, où nous allons nous appuyer sur le groupe Bartimée et le GAF, le groupe Amitié Fraternité, qui sont membres de la chaire depuis plusieurs décennies. Le groupe Bartimée est rattaché à la paroisse de Castanet, et donc l'idée c'est vraiment de venir travailler sur la parole des plus pauvres, recueillir ce dont ils ont besoin, leurs attentes, pour ne pas forcément répondre par des moyens financiers, comme ce qui est mis en œuvre actuellement, mais plutôt par une véritable entraide qui vise à les sortir de leur grande précarité.
Donc il y a des travaux au sein de la chaire, mais ce n'est pas complètement fermé au sens où il y a une programmation. En cours de saison, il y a des événements qui sont ouverts au public pour certains.
Tout à fait, bien sûr. Nous nourrissons des retours publics. C'est quelque chose que nous chérissons. Quand il y a des conférences, des colloques, nous donnons à chaque fois la voix au public. Alors, votre question m'amène également à développer les événements de l'année qui va arriver, 2026-2027. Ce projet de recherche dont je parlais à l'instant, IA et DSE, Doctrine sociale de l'Église, se poursuivra sur 3 ans. Mais nous faisons la journée de lancement le 20 novembre. 2026 à l'ICT autour d'une réflexion sur l'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence ? Qu'est-ce que l'intelligence humaine, artificielle ? Et naturellement, nous nous appuierons sur la dernière encyclique du pape Léon XIV. Pour ce projet, nous avons beaucoup de partenaires extérieurs à l'ICT et extérieurs même à Toulouse. Donc nous entendrons des chercheurs spécialisés en sociologie, en droit, en éthique, en philosophie sur cette question de l'intelligence et de l'apport de l'intelligence humaine. Donc ça, c'est une perspective qui est ouverte à tous, bien évidemment. Le 8 décembre, nous aurons une journée sur l'art-thérapie et les vulnérabilités. L'idée de se concentrer sur la place de l'art pour être au service des personnes vulnérables. Nous avons beaucoup réfléchi sur ce thème puisque, en sous-jacent, nous étions également intéressés sur la pratique de l'art par les personnes vulnérables. Mais il nous a semblé nécessaire de dissocier ces deux réflexions autour de deux journées distinctes. Donc pour cette année, ce sera essentiellement consacré à l'art-thérapie comme un moyen d'aider les personnes placées en vulnérabilité. Et le public est convié, c'est le 8 décembre à l'ICT, et le public sera sollicité, particulièrement en fin de journée. Donc j'encourage chacun à venir. Nous aurons également une conférence sur les sources naturelles du droit qui se tiendra le 26 février 2027 à l'ICT. L'idée est de venir réfléchir sur les traces du droit dans l'Ancien Testament. Alors cette conférence, je me dois de préciser qu'elle est pour nous très importante d'un point de vue symbolique puisqu'elle fait suite à une conférence qu'avait donnée Jean-Marie Fehrenbach sur l'engagement éthique des prophètes en 2024 et son intervention avait été brillante comme à chaque fois. Il avait été publié dans les cahiers de l'Évangile et Jean-Marie nous a quittés l'an dernier. C'est lui qui devait faire cette conférence puisqu'il était bibliste. Et puis bon, voilà, l'an dernier, nous n'avons pas eu le cœur à faire cette conférence en l'absence de Jean-Marie. Et puis finalement, nous avons décidé de travailler avec les personnes qui ont les ressources pour réaliser une telle conférence. Donc nous aurons le vice-recteur, le père Poirier, notre membre de notre chaire, le professeur Tanguy-Marie Pouliquen, et peut-être l'abbé Cyprien Comte pour réfléchir sur les sources du droit naturel. Et enfin, une dernière journée, c'est la journée sur le revenu minimum universel, qui donne lieu à beaucoup de réflexions, particulièrement ces temps-ci, puisque c'est toujours la question de savoir est-ce que finalement aider les personnes qui sont dans le besoin et qui ne travaillent pas est une bonne chose pour elles. Et si oui, à quel montant, à quelle hauteur il faut les aider financièrement. Et les derniers rapports, le rapport Piketty notamment, qui a été rendu public en juin 2026, permet de repenser peut-être cette aide et ce revenu minimum universel. Donc ce sera l'objet de d'une journée d'études en mars 2027.
Oui, beaucoup voilà. De grands sujets d'actualité, on ne peut plus actuel même. Alors, on en arrive à ce prix de la chaire Jean Rodin qui a été créé il y a quelques années, j'ai plus l'année précise en tête. Pourquoi vous l'avez créé et avec quels objectifs ?
Alors, lorsque ce prix a été créé, c'était par l'ancienne titulaire de la chaire, Marie-Christine Monnoyer, avant le Covid, qui a estimé qu'il fallait donner la parole à nos étudiants qui s'engageaient dans des projets solidaires ou associatifs, en dehors de toute reconnaissance universitaire académique, c'est-à-dire sans gagner des points, sans être mieux noté. Et puis bon, le Covid a nécessité une interruption de ce prix Rodin et c'est avec joie que nous l'avons relancé il y a 3 ans maintenant, ou du moins c'est la troisième édition. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en avant les projets des étudiants dans lesquels ils s'investissent, soit parce qu'avant d'arriver à l'ICT, ils avaient déjà un projet, soit parce qu'au sein de l'ICT, ils ont développé un projet ou ils ont rallié une association, soit enfin parce qu'après l'ICT, à l'issue de leur présence chez nous, ils ont décidé de s'investir dans un projet associatif. Donc nous récompensons ces étudiants-là par une donation qui peut aller jusqu'à 1 000 euros, donc ce n'est pas rien, qui est faite non pas à l'étudiant, mais à l'association.
C'est le projet qui est récompensé à travers celui ou celle qui le porte. Donc, les critères de sélection pour participer, qu'est-ce que vous avez retenu ? Il y en a plusieurs, évidemment.
Alors, il y a plusieurs critères, évidemment, de sélection. Je précise que le dossier de candidature est disponible sur le site de la chaire Jean Rodin et qu'il est généralement envoyé aux étudiants durant l'année universitaire, à tous les étudiants de l'Institut catholique. Donc, n'importe quel étudiant peut candidater, y compris les alumni de l'ICT, puisque, comme
Donc,
je disais tout à l'heure,
voilà,
les anciens étudiants peuvent candidater.
Mais est-ce que quelqu'un qui est extérieur à l'ICT peut candidater aussi ?
Alors écoutez, sur le principe,
Rien n'en empêche ?
Rien ne l'empêche. La situation ne s'est jamais présentée. Donc, on y réfléchira avec les membres de la chaire. Mais pourquoi pas ? Après tout, l'idée est toujours de promouvoir le plus possible la charité. Alors après, en termes de critères, ce qu'on va vraiment regarder, ce n'est pas à proprement parler ce que fait l'association. Bien sûr que cela nous intéresse, mais il n'y a pas une association qui est valorisée par rapport à une autre. Surtout, ce qui va être important, c'est l'engagement de l'étudiant. Comment il est arrivé dans cette association-là ? Quelle démarche a-t-il entreprise pour choisir cette association ? Pourquoi celle-ci ? Qu'est-ce qu'il a apporté au sein de cette association ? Et s'il bénéficie de la donation, qu'est-ce qu'il fera avec l'association, avec cette donation ?
Alors, je crois qu'il y a aussi quand même d'autres critères tels que la plus-value sociétale que le projet porte. Ça, c'est un des critères premiers.
Tout à fait, ça va avec ce que j'ai...
Et la créativité, l'innovation, côté innovateur.
Voilà, exactement. On est sur, en effet, les innovations sociales que promeut la chaire Jean Rodin de Toulouse. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que derrière, comment on va transcender l'association et les actions qui sont menées grâce à cette dotation. Ce n'est pas juste recevoir pour dépenser, c'est recevoir pour donner un bon ou un rebond à l'association afin qu'elle puisse se multiplier et poursuivre, prolonger son action.
Ce que vous essayez d'évaluer aussi, c'est la capacité plutôt la cohérence du projet avec les principes de la pensée sociale de l'Église.
Oui, en effet. Mais ces principes de la pensée sociale de l'Église sont, à mon sens, assez universels et ils nous concernent tous. Donc, je vais être très honnête avec vous, cher Eric. Je suis toujours très admirative de l'engagement des étudiants. Quel qu'il soit, même s'il s'agit que d'une heure ou deux par mois, une heure ou deux par semaine, ou de tout un week-end. Je pense à l'une des lauréates de l'an dernier pour son association À Bras Ouverts, à Beau, où c'était sur des week-ends entiers. Je suis toujours très admirative de ces jeunes qui s'investissent pour une cause qui les touche, qui généralement ne les concerne pas, mais qui les touche profondément et pour laquelle ils vont dédier du temps, peut-être de l'argent, un certain investissement, et qu'ils souhaitent mettre sur le devant de la scène. Ça, c'est la pensée de Jean Rodin, c'est la pensée d'une charité au cœur des actions de la pensée sociale de l'Église.
Qui sont les membres qui constituent le jury et qui donc votent pour décerner le prix ? Ce sont uniquement les membres de la chaire Jean Rodin ou il y a d'autres personnes éventuellement ?
Alors, ce sont uniquement les membres de la chaire Jean Rodin et chaque année, ces membres changent. Cette année, il s'agissait de Marie-Christine Monnoyer, ancien titulaire de la chaire, et Marie-Véronique Dupasquier, qui est ma co-titulaire de chaire, puisque dorénavant, nous sommes deux à diriger la chaire Jean Rodin.
Merci de préciser, parce que je ne l'avais pas dit, et ça me semble important. Ça, c'est une nouveauté, ça.
C'est une nouveauté qui a été officialisée cet été, en juillet. Voilà, et donc je suis très heureuse. Marie-Véronique Dupasquier est maître de conférence en théologie à l'Institut catholique de Toulouse, et elle relève de l'IERP.
Donc il y a trois membres du jury, c'est ça ? C'est ce que vous voulez
dire ? Non, moi je n'en fais pas partie.
Donc deux membres seulement ?
Alors cette année, il n'y a eu que deux membres du jury. Et nous avions demandé également à Jean-Yves Perroin, qui est membre de la chaire Jean Rodin.
Qui
est juriste de formation, oui, en effet. Et de départager, enfin voilà, d'être la troisième voix si jamais il n'y avait pas une unanimité. Et puis cette année, il y a eu unanimité autour du projet sommet.
Alors, je voudrais qu'on parle un peu de la communication de la chaire Jean Rodin, mais je vais poser d'abord la question à Pauline Maestre-Planck. Comment s'est arrivée jusqu'à vous l'information qu'il y avait ce concours pour lequel vous pouviez déposer un dossier ?
Justement, c'était en réfléchissant à des actions qu'on pouvait mener avec l'association que j'ai vu sur le site de l'ICT que cette chaire existait. Et donc, je me suis dit que nos valeurs des sommets concordaient à peu près avec la vôtre. Du coup, on a candidaté.
Ça ressemble à quoi un dossier qu'on dépose pour concourir pour le prix Jean Rodin ? C'est assez compliqué à remplir ou c'est très rapide ?
Je ne me permettrai pas de répondre puisque je trouve assez simple. Donc je laisse la parole à Pauline.
Non, c'était très intéressant à faire parce que ça remettait pas mal en question l'association, les projets. Et après, c'était quand même une simple présentation. Donc ça a pris du temps de réfléchir à comment on voulait faire ressortir notre association. Mais c'était pas compliqué. Enfin, les réponses n'étaient pas compliquées en soi.
On a évoqué la pensée sociale de l'Église, c'est quelque chose que vous connaissez, qui vous parle ? Vous en connaissez les grands principes, par exemple ?
Mais alors personnellement, oui, puisque j'ai toujours été dans un environnement catholique. J'ai fait 10 ans de scoutisme, donc c'est des valeurs qui me correspondent. Et après, avec l'association, c'est une association laïque, donc il n'y a pas forcément de religion.
Alors vous êtes étudiante à l'ICT, vous êtes quelle discipline ?
Là, je rentre en master de psychologie.
Et avant ou...
Et avant, j'ai fait une licence de psychologie et entre-temps, j'ai fait une licence professionnelle pour être éducatrice spécialisée.
Alors, je reviendrai vers vous tout à l'heure en seconde partie d'émission. Voilà, on va vraiment parler de votre projet, donc de cette association Essomé. Je parlais donc de la communication pour la chaire Girondin. Je crois qu'aujourd'hui, vous n'avez personne pour s'occuper de cette partie qui est très importante de nos jours. On ne peut pas trop se passer de communication. Donc, vous pouvez lancer un appel si vous cherchez quelqu'un. Ce serait sous quelle forme?
Merci beaucoup, cher Eric. Oui, en effet, je lance un appel. Je profite de ce passage. Si nous avons un jeune étudiant intéressé pour donner quelques heures dans le cadre d'un stage qui serait filé, c'est-à-dire qui durerait toute l'année universitaire, pour nous aider dans la promotion de la communication des activités de la chaire. Il y a beaucoup de choses à faire, donc ça c'est l'avantage, je dirais, c'est-à-dire que c'est une toile un petit peu vierge que l'on peut modeler comme on le souhaite. Il faut créer un statut LinkedIn, il faudrait peut-être repenser le site internet, promouvoir justement le prix Jean Rodin, développer des actions pour se faire connaître. Donc j'en appelle à toute bonne âme qui souhaiterait avoir un stage de plusieurs heures, hein. À mon avis, c'est au moins une bonne trentaine d'heures.
C'est une page vierge, donc c'est à la
fois intéressant,
mais ça suppose aussi du travail.
Même. Et puis de nous suivre sur nos actions de façon à ce que nous puissions les promouvoir.
Et entre autres, il y aurait à promouvoir ce prix et à toucher tous ceux qui sont susceptibles et toutes celles qui sont susceptibles d'être intéressées par ce concours avec des projets qui lui correspondent.
Tout à fait. C'est pour ça que si quelqu'un souhaite venir nous aider, c'est avec beaucoup de plaisir que j'accepterai la candidature.
Bon voilà, bah écoutez, l'appel est lancé et d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez vous adresser à Radio Présence. Nous relayerons bien sûr avec plaisir vos candidatures. Nous allons faire une pause dans cette émission avant d'échanger avec Apolline Maestre-Planck pour qu'elle nous présente l'association Essomé, ses objectifs et ses actions. Ce sera après la pause musicale que nous allons faire en écoutant un extrait de L'Agnacéa. C'est une composition d'une compositrice contemporaine, Camille Pépin.
Thank you. présence.
Vivante Église, Éric Dupri.
Après cette pause musicale, nous revoici et je suis toujours avec mes deux invités, Aude Bernard, docteur en droit et maître de conférence à la Faculté libre de droit de l'ICT, titulaire de la chaire Jean Rodin, co-titulaire de la chaire Jean Rodin désormais, et Apolline Maestre-Planck, lauréate du prix 2026 de la chaire Jean Rodin. Cette seconde partie d'émission va être très largement consacrée à votre engagement dans le projet qui vous a valu d'être distingué cette année. Vous avez fondé et vous présidez l'association Essomé, qui soutient une structure d'accueil pour enfants au Togo. Comment est née cette association? Quels sont ses objectifs et les actions concrètes qu'elle mène? Et puis, je suis un peu curieux, hein, qu'est-ce que ça veut dire, Essomé? Je crois que ça vient d'un dialecte togolais, justement.
C'est ça. Alors, Essomé, ça signifie avenir en évé, du coup, le dialecte du Togo. Et on trouvait ça important d'appeler notre association avec quelque chose qui nous faisait penser au Togo. Et voilà, on a pensé à un mot de ce dialecte.
Et l'avenir, c'était très bien trouvé, évidemment, puisque ça s'adresse à des très jeunes, même à des enfants. Alors, vous l'avez créé en quelle année et après quel événement? Alors, je crois que c'est un stage que vous avez fait sur place.
C'est ça. En fait, je suis partie dans le cadre de ma deuxième année de licence de psychologie au Togo, donc dans une structure qui accueille des enfants handicapés. Et j'étais accueillie dans une association qui s'appelle Un Espoir, Un Sourire, qui accueille d'autres bénévoles, des personnes qui viennent faire du droit des enfants ou d'autres stages comme moi d'éducateur spécialisé. Et j'ai rencontré une amie qui s'appelle Emma et avec qui le week-end nous allions dans des structures partenaires. Donc là, en l'occurrence, un orphelinat qui s'appelle Vision of God. Et cet orphelinat, c'était un endroit où on adorait aller puisque c'était toujours la joie de vivre, des chansons, de l'amour. Et donc un jour, c'était l'anniversaire d'une des jeunes filles de l'orphelinat et il s'est mis à pleuvoir. Et jusqu'à là, on était toujours dans le jardin puisqu'il faisait beau et on a dû rentrer. Et en fait, on a découvert une pièce de 9 mètres carrés à peine avec tous les objets entassés, tous les habits. Des seaux au milieu parce qu'il y avait l'eau qui coulait, pas d'eau, pas d'électricité. Et en fait, en sortant de là, dès qu'on est monté dans la voiture, on s'est dit « mais c'est pas possible, on peut pas les laisser comme ça ». Et donc en rentrant, on a réfléchi tous les deux, puis on en a parlé aux bénévoles de l'association Un Espoir, Un Sourire qui nous ont dit bah, « réfléchissez à un projet et nous on vous suit ». Et donc pour le premier temps, on a lancé une cagnotte qui nous a permis de les changer de maison. Donc on a pu trouver, du coup toujours avec l'aide des bénévoles, une nouvelle grande maison avec maintenant 6 chambres, il y a l'eau, il y a l'électricité. Et ensuite en rentrant en France, on s'est dit qu'on ne pourrait pas faire des cagnottes toute notre vie. Donc on s'est dit que créer une association, ce serait plus bénéfique pour eux.
Vous l'avez créée avec qui cette association? Parce que vous en êtes la présidente, mais évidemment, vous n'êtes pas seule.
Et non, du coup, je l'ai créée avec Emma, toutes les deux. On a fait, en rentrant en France, on a fait tous les papiers, tous les statuts qu'on a envoyés à la préfecture plusieurs fois, parce que ça a été rejeté. Et au final, c'est en novembre 2023, du coup, que l'association est née.
Donc elle existe depuis près de 3 ans, tout
c'est
de
même. Ça.
Donc il y a eu déjà plusieurs actions qui ont été menées. Vous avez des bénévoles avec vous, en plus des membres de l'association, des gens qui vous aident, qui vous soutiennent. Vous recevez des dons?
Alors, donc on est deux, on va dire, titulaires dans l'association. Mais ensuite, il y a aussi nos familles qui s'investissent aussi. Par exemple, ma cousine qui est responsable de la communication. Mon père qui nous aide parfois pour la comptabilité. Et on a pu faire des actions. On a créé une tombola à Rennes, du coup, dans le lycée à l'époque de mon ami. On avait réuni plein
parce
de...
Parce que votre amie, excusez-moi, je coupe, elle est originaire de Rennes. Elle.
Oui, c'est ça.
Vous êtes toulousaine.
Oui, c'est ça. Donc à Rennes, on avait pu réunir plein de partenaires et organiser une tombola. Ensuite, on a été en partenariat avec le club de basket de l'Onagé. On a pu faire des vies de grenier, voilà, assister aux matchs. Et ensuite, avec aussi le lycée Théas à Montauban, où chaque année, les bénéfices de l'action du bol de riz nous reviennent.
J'ai dit, vous étiez toulousaine, je crois que vous êtes plutôt montalbanaise, étudiante à Toulouse.
C'est ça.
Je n'aurais pas me fâché avec les montalbanais qui nous écoutent et je sais qu'ils sont nombreux. Donc, les ressources financières, ce sont des dons en fait pour financer les actions que vous menez?
Ce sont des dons et du coup les bénéfices de nos actions, c'est ça.
Et sur place, vous avez des relais. Est-ce que vous travaillez avec d'autres associations qui œuvrent au même endroit?
Du coup, on est en partenariat, si on appelle ça comme ça, avec Un Espoir, Un Sourire, puisque eux nous ont accueilli notre projet Et en fait, eux, ils travaillent avec plusieurs structures là-bas. Ils s'occupent de 5 orphelinats, du centre avec les enfants handicapés. Et nous, on a vraiment dédié notre association à Vision of God. Et du coup, c'est eux voilà, qui sont relais un petit peu sur le terrain, qui nous envoient des nouvelles des enfants, qui leur amènent des fournitures, ce qui leur manque.
Combien d'enfants vous avez aidés jusqu'alors, depuis les 3 ans qu'existe l'association ?
Alors, au début, ils étaient 25 et maintenant, ils sont presque 40. Puisque voilà, au Togo, il y a beaucoup d'enfants orphelins et la tata qui s'en occupe voudrait aider tous les enfants du Togo, même si ce n'est pas possible. Mais du coup, ça augmente petit à petit.
Donc, c'est essentiellement les frais de scolarité que vous essayez de financer, mais ça peut être aussi des vêtements
Alors, principalement, c'est le loyer de la maison. Et ensuite, oui, les frais de scolarité. Pour un enfant du primaire, ça peut aller de 80 à 100 euros. Et pour le collège, c'est plus cher. Il me semble que ça atteint presque 200 euros par an. Donc, bien sûr, pour nous, c'est pas grand-chose. Mais pour eux, quand ils sont 40, les personnes qui s'en occupent ne peuvent pas tout financer.
Est-ce qu'il existe un site internet de votre association qu'on peut consulter ?
Oui, il existe un site, c'est Essomé. Et ensuite, il y a aussi les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn.
Donc, vous avez un profil sur chacun de ces réseaux sociaux. Bon, j'imagine que vous recherchez des bonnes volontés pour vous aider à l'association. Vous auriez besoin de quel type de compétences, par exemple ?
Ben, en fait, on a besoin un peu de tout parce que ce qui est de la comptabilité, moi, je fais avec ce que je sais, mais ce n'est pas toujours parfait. Par exemple, on recherche des bénévoles pour même des idées de projets parce que ben, moi, il y a des trucs qui ne me viennent pas. Là, par exemple, on a un nouveau projet qui est d'écrire un livre. Donc, on va être en partenariat avec une classe d'un lycée à Montauban. Bon, tout n'est pas calé, donc on dira quand ce sera vraiment calé. Mais par exemple, s'il y a des dessinateurs, des écrivains, enfin, on prend toute personne qui veut nous aider et sera la bienvenue.
Quel serait le sujet de ce livre ?
Bah alors, moi, j'aimerais bien que ça retrace l'histoire de l'orphelinat. Mais bon, après, il faut que...
Il existe depuis combien de temps ?
Ça fait presque 10 ans qu'il existe.
Et il y a eu plusieurs étapes dans cette histoire. C'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup de choses à raconter.
Ben en fait, l'histoire, c'est que la maman qui s'en occupe, du coup, elle s'appelle Dorcas. Dorcas, elle était orpheline aussi, et c'est pour ça qu'elle a créé un orphelinat, parce qu'elle ne voulait pas laisser vivre des enfants avec ce qu'elle a vécu. Et au début, ils n'étaient que 1 ou 2, et maintenant, ben, ils sont 40. Au départ, elle était seule à s'en occuper, jusqu'à l'an dernier, il me semble. Et là, il y a une de ses cousines qui est venue l'aider. Il y a aussi les grandes, du coup, maintenant, de l'orphelinat, qui les aident. Il y a des enfants, des nouveaux enfants tout le temps.
Comment on peut vous contacter aujourd'hui ? C'est le site internet ou il y a une adresse mail générique ?
Oui, on a une adresse mail.
C'est plus simple peut-être ?
C'est ça, c'est contact.essomé@gmail.com.
Alors je précise qu'essomé s'écrit E2SOME. Bon, dans l'adresse internet, il n'y a pas le E, vous mettez un E et ça marchera très bien. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir reçu ce prix ?
Ben, c'est une très grande fierté, un très grand plaisir de voir que d'autres personnes s'intéressent à notre projet, parce que c'est vrai que quand on l'a vécu, je sais ce que j'ai vécu et que ça restera gravé à jamais dans ma mémoire. Mais c'est vrai que pour des gens à qui je l'explique, c'est pas forcément... voilà, il y a plein de personnes qui font ça, qui vont aider un orphelinat au Togo. Mais moi, ça me fait vraiment plaisir qu'on se rende compte des actions qu'on a menées et de l'importance que ça a que d'autres personnes s'intéressent à notre projet, à notre association.
Bah, c'est aussi une forme de reconnaissance sur la valeur de ce que vous faites.
Hein. C'est ça.
Sur votre engagement, bien entendu. Donc, le prix est doté de 1 000 euros, c'est ça, Bernard ?
Oui, tout à fait, 1 000 euros.
Alors ça va être, je suppose, entièrement utilisé pour financer ces frais de scolarité pour les 40 aujourd'hui enfants que vous soutenez.
Donc là, en fait, à la base, on payait le loyer environ 100 euros par mois. Mais là, il y a eu un peu une crise économique au Togo et les loyers ont augmenté. Donc non, ils se retrouvent à 200 euros. Donc, on va devoir doubler nos actions, du coup, pour pouvoir payer le loyer, mais aussi les frais de scolarité et tout ce qui va en dehors, ce qui est de la santé, des fournitures scolaires, des habits, de la nourriture.
Sur place, vous avez donc des relations avec l'orphelinat, mais est-ce que vous en avez aussi avec les autorités ? C'est un village, c'est une ville. Est-ce que sur place, vous avez affaire à des gens qui sont des représentants des administrations locales ?
L'orphelinat, il se situe dans un quartier de Lomé, donc de la capitale. Et non, en fait, les orphelinats là-bas ne sont pas du tout reconnus. Enfin, il y a des orphelinats qui sont reconnus, mais c'est très compliqué d'avoir les papiers. Et Dorcas n'a pas réussi à avoir la reconnaissance de l'État. Du coup, on n'a affaire à personne pour l'orphelinat.
Et vous ne pouvez pas les aider là-dessus, sur cet aspect-là, se faire reconnaître par les autorités sur place?
Ben, ça pourrait être un très bon projet pour l'avenir, mais là, c'est vrai qu'on n'a pas... C'est pas notre projet principal.
En tout cas, à ce jour. Aude Bernard, alors, qu'est-ce qui a séduit le jury de la chaire dans ce projet?
Écoutez, vous avez entendu Apolline, c'est absolument brillant, magnifique, plein d'espoir, d'humanité. C'est un projet qui ne peut que séduire. Mais plus particulièrement, puisqu'il faut répondre à votre question, cher Eric, c'est naturellement l'accès à l'éducation qui a été primordial pour les membres du jury et la question de l'attention aux plus vulnérables en ce qu'ils sont ici, dans le cas de l'association Essomé, des jeunes enfants privés de leurs parents. Donc ce sont peut-être les deux points saillants qui ont vraiment retenu toute l'attention du jury, même si je le redis, et vous le savez puisque vous m'avez fait la gentillesse de m'inviter à chaque fois, les associations qui sont récipiendaires du prix Rodin ont à chaque fois un profil différent et toujours, enfin, tout aussi intéressantes les unes que les autres.
Une des particularités de ce projet, peut-être aussi, qui a pu compter, c'est que c'est une co-construction avec des acteurs locaux, vraiment,
oui.
Des structures sur place.
Oui. Alors, c'est une construction avec des acteurs locaux. Et puis, c'est quand même absolument fabuleux. C'est-à-dire que ce sont des jeunes filles qui partent en stage. On imagine très bien cet esprit de stage. C'est-à-dire, je vais découvrir, mais je suis là finalement un peu dans le cadre de ma formation. Je fais un stage parce qu'il faut que je valide ma licence. Et qui sont transcendées parce qu'elles voient, suite à un abado, en se disant, mais on ne peut pas rester comme ça. Et c'est ça le prix Rodin, c'est de se dire à un moment donné, face à quelque chose, face à une cause, face à une situation, l'étudiant ou l'étudiante va être sidéré, va se dire, là j'agis. J'agis avec les moyens que j'ai, avec mes compétences, les compétences d'amis,
mon réseau, mes
finances ou les finances que je me débrouille pour aller chercher. Voilà, c'est ça qui est mis en valeur. C'est se dire, eh bien, on va faire d'une petite rivière, on va essayer d'en faire un grand fleuve. Et la jeunesse n'a pas peur des murs et des barrages qu'elle peut rencontrer lorsqu'elle souhaite créer ces grandes rivières.
Alors, vous avez sollicité un club sportif, c'est le club de basket de Launaguet, c'est ça. Et puis un établissement scolaire montalbanais. Vous cherchez d'autres partenariats de ce type? Je ne sais pas si vous parlez de partenariat ou de collaboration, en tout cas.
Ah oui, ben, tous les partenaires sont les bienvenus aussi pour nous aider, même si nous, on peut leur rendre service. Et par exemple, je ne sais pas s'ils ont des livres à se débarrasser et puis que nous,
oui,
on
parce
les
que
ramène
à ça, aussi du matériel scolaire,
oui, c'est
tout
ça.
Simplement. Hein. Vous avez besoin de, je sais pas, de stylos, de cahiers. De quoi ont-ils besoin le plus, là, d'ailleurs, sur place au Togo? De tout ça,
là,
ou il y a des choses en particulier?
Là, je dirais, premièrement, ce serait de la nourriture, déjà, à la base, de pouvoir manger trois repas équilibrés par jour. Et ensuite, pour ce qui est de l'école, oui, c'est des cahiers, des stylos, des règles, les fournitures de base.
Quand vous parlez de nourriture, c'est de la nourriture qui va être achetée sur place et financée avec les dons que vous pouvez faire à travers votre association, ou c'est de la nourriture qui peut être envoyée directement?
Alors, on y a déjà réfléchi et ce sera plus rentable d'acheter directement là-bas que d'envoyer...
Ah oui, parce qu'il y a les frais de port.
C'est
et
ça.
Bon, à l'arrivée, ce ne serait, serait pas vraiment valable. Aude Bernard, le prix de la chaire Jean Rodin 2027, à partir de quand on peut envoyer un dossier pour ceux qui nous écoutent, qui seraient tentés de le faire?
Dès maintenant, cher Eric. Alors, je reconnais que nous n'avons pas encore mis à jour le dossier de candidature, mais ce sera le même que celui de l'an dernier. Il est disponible sur le site de la chaire. Donc, dès maintenant, les candidatures peuvent être déposées. Elles peuvent être remises en main propre au service de la vie étudiante de l'ICT ou sinon envoyées par mail sur le site de la chaire Jean Rodin. Nous recevons les candidatures à peu près jusqu'à mi-mars 2027 et ensuite une audition aura lieu avec les membres du jury qui seront choisis cette année parmi les membres de la chaire Rodin.
Donc voilà, il faut déposer son dossier, mais après en quelque sorte il faut aller le défendre devant le jury.
Oui.
C'est pas
oui.
seulement sur papier, si je puis dire, que vous faites votre choix.
Non,
il
non.
faut aussi que l'étudiant qui vient porter son projet devant vous, le défendre devant vous, fasse passer son énergie et puis sa conviction.
Tout à fait. L'audition est très importante et je vous dirais même qu'une année, elle a fait un petit peu basculer le classement
elle
des
décisive,
dossiers.
Donc, hein.
Voilà, puisque nous étions trois membres du jury et nous avions des ressentis un petit peu différents sur deux, trois dossiers. Et il y a eu l'audition d'un candidat qui a été absolument remarquable et remarqué et qui lui a d'ailleurs permis d'obtenir la première place
Donc de retourner en quelque sorte un peu le jury, si je comprends bien.
Oui, absolument. Mais il faut reconnaître que par papier, on couche des mots, mais on peut difficilement traduire une émotion, un investissement, un engagement. Et d'ailleurs, je rejoins la main que vous m'aviez tendue tout à l'heure sur la possibilité d'avoir un communicant, un stagiaire. Moi, je ne dirais pas non, peut-être à repenser aussi ce dossier. S'il y a des questions, et je m'adresse aussi à Pauline, s'il y a des questions à revoir ou à retravailler pour permettre de mieux avoir ce ressenti, j'y suis tout à fait ouverte.
Le prêt est décerné, c'est au mois d'avril, je crois.
Fin mars ou début avril. Ça dépend un petit peu de nos chers étudiants et de leurs contraintes en termes d'examen.
Puis du nombre de dossiers que vous recevez, parce que plus vous allez en recevoir, évidemment, plus il faut de temps pour les étudier. Et après, il faut recevoir chacun.
Dans tous les cas, nous remettons le prix Rodin avant les vacances d'avril. Parce qu'ensuite, nous savons qu'il y a, pour les troisième années, la célèbre procédure Mon Master, qui leur prend beaucoup d'énergie et leur cause beaucoup de soucis. Il y a les examens. Donc voilà, dans tous les cas, c'est avant les vacances de Pâques, nous remettons le prix.
Avant de conclure cette émission, petit rappel sur les prochaines échéances du calendrier de la chaire Jean Rodin, donc les prochains événements. Alors j'ai retenu qu'il y en avait un dès le mois de novembre. Rappelez le sujet.
Oui, le 20 novembre, nous faisons la journée de lancement de notre projet stratégique de recherche sur l'IA et la doctrine sociale de l'Église. Et cette journée de lancement s'intitulera « Intelligence humaine artificielle, qu'est-ce à dire ?» Nous aurons des spécialistes nationaux de cette question pour tenter de définir ce qu'est l'intelligence, quel est l'apport d'une intelligence humaine sur une intelligence artificielle et comment doit-on entendre le terme IA dans la perspective d'un travail de recherche académique et de terrain autour de l'IA et de la DSE. Et nous vous donnons rendez-vous ensuite le 8 décembre 2026, toujours à l'ICT, toujours une entrée libre et ouverte à tous, autour d'un thème sur l'art-thérapie et les vulnérabilités, comment l'art peut permettre d'être utilisé en thérapie pour aider les personnes les plus vulnérables.
Tout ça se passe à l'Institut catholique. Est-ce qu'il y a une salle qui a déjà été retenue pour ces événements ?
Absolument. Pour le 20 novembre, ce sera en salle E101. Et pour le 8 décembre, c'était initialement en salle E101. Mais je vous l'avoue devant tous les auditeurs, je souhaiterais que nous ayons la salle Léon XIII afin qu'une de nos membres de la chaire Rodin puisse nous jouer un air de piano pour introduire cette journée sur l'art-thérapie.
Vous avez de la chance d'avoir une pianiste parmi les membres. Les horaires, ça se passe sur une journée ou c'est plutôt le soir ?
Non, sur une journée, à peu près de 9h à 18h. Ce qui n'exclura pas peut-être sur d'autres événements de terminer un peu plus tard en soirée.
Et c'est entrée libre pour tous, sur inscription ou pas ?
Sur inscription, oui. Parce que si par extraordinaire nous dépassons la capacité jauge, de la salle, il nous faut changer de salle. Et alors je dis que c'est par extraordinaire, mais ça nous est quand même arrivé deux fois. Donc il vaut mieux s'inscrire en effet avant, de façon à ce que nous puissions avoir une salle suffisamment adéquate pour recevoir chacun et que chacun puisse s'asseoir. Parce que sinon une journée de colloque debout, c'est long.
Oui, le confort ça compte aussi. Oui. Nous allons devoir conclure cette émission. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux d'y avoir participé. Et merci à Apolline Maestre Planck de nous avoir présenté l'association et sommet, ses objectifs et les actions qu'elle mène au Togo. Je précise que vous pouvez consulter la programmation 2026-2027 de la chaire Jean Rodin en vous connectant à son site internet ou au site de l'Institut catholique, www.ict-toulouse.fr. Cette émission était animée par Éric Dupri, à la technique Jonathan Botello. Très bonne journée à tous, à la semaine prochaine.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.